Eh bien, bonjour, bon dimanche. Tout le monde va bien?
Oui.
Merci Seigneur, c'est bon. Gloire à Dieu. Eh bien, écoutez, ce matin, j'ai un message un peu spécial pour chacun d'entre vous, pour remettre bien les pendules à l'heure et de ne pas se laisser aller dans du n'importe quoi et suivre la vision que le Seigneur nous a donnée. Le Seigneur avance, la colonne de feu, la colonne de nuée avance et nous avançons avec. Alors on va commencer par une lecture dans chapitre 21 d'Apocalypse, Apocalypse 21, au verset 1 et 2. Alors ici, bon, je ne vous dis pas la météo, c'est toujours pareil. Il fait beau, il fait chaud, la vie coule comme une chanson. Les melons sont bons, maintenant on commence à avoir du bon raisin. Même sur la treille sous laquelle on mange. Ah, est-ce qu'on est bien quand on est bien, comme on dit en Suisse. Apocalypse 21, verset 1. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, parée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Amen.
Amen.
Jésus, je te prie de bénir les paroles que je vais apporter ce matin et de bénir les cœurs aussi de ceux qui vont l'entendre, afin que chacun puisse recevoir ces choses-là et y réfléchir, méditer et sonder les Écritures. Et sonder ton cœur aussi. Merci, Jésus. Je te prie pour que ces gens qui écoutent sur Internet, ces frères et sœurs, soient au clair au sujet de ce qui se passe maintenant. Merci, mon Dieu. Amen.
Amen.
Alors, je crois de plus en plus que nous vivons le temps du rétablissement dont nous parlent les Saintes Écritures. Les prophètes en ont parlé avant dans l'Ancienne Alliance, et puis on en a aussi le témoignage dans le Nouveau Testament, en particulier dans Actes 3, 21. On sait que Jésus ne reviendra qu'au temps du rétablissement de toutes choses. Il ne viendra pas quand le rétablissement de toutes choses aura été fait, complet. Je dis ça parce qu'il y a des gens qui pensent ça, et c'est faux. C'est écrit qu'il viendra au temps du rétablissement de toutes choses, c'est-à-dire pendant le processus du rétablissement de toutes choses. Amen ?
Oui.
Voilà, donc il faut être clair. Je crois de plus en plus qu'on vit dans ce temps-là. L'Église sait que Jésus revient bientôt. Si vous allez chez les pentecôtistes, ils savent ça. Si vous allez chez les baptistes, ils savent ça. En fait, tout le monde sait que Jésus revient bientôt. Alors, sur les nuées du ciel, pour enlever son épouse, on ne mélange pas cette première venue avec la deuxième venue qui sera visible, et c'est là que les Juifs le reconnaîtront, mais pour le moment, il revient juste pour enlever son épouse, et puis vous en avez qui cherchent à donner une date au sujet de cet événement, de cet enlèvement. Moi, je ne suis pas de ceux qui cherchent les dates, je ne veux pas condamner ceux qui cherchent la date. Ils font comme ils veulent, voilà, que Dieu les bénisse, mais moi je cherche pas la date. C'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est d'être prêt, d'avoir ce qu'il faut pour pouvoir partir dans l'enlèvement, puisque la Bible nous dit que au milieu de la nuit, une voix a crié, l'époux vient, et que les 10 vierges se sont donc réveillées, et puis ont allumé leurs lampes, enfin voilà, et puis ils sont allés à la rencontre de l'époux. Et puis il y en avait qui n'avaient pas ce qu'il fallait pour pouvoir y aller, pour aller jusqu'au bout. Ils n'avaient pas assez d'huile, ils n'avaient pas ce qui était nécessaire pour aller jusqu'à la rencontre de l'époux. Et quand elles ont finalement réussi à trouver tout ce qu'il fallait, ben c'était trop tard et la porte était fermée. Donc ce que je veux, moi, c'est pas tellement savoir la date, je veux savoir ce qu'il faut pour pouvoir aller à ce rendez-vous.
Amen.
Les pierres précieuses sur lesquelles la lumière n'a pas encore brillé dans les nations, c'est ça que je veux chercher. C'est ce que le prophète William Branham a dit, reprenant un songe d'un homme qui de son église qui s'appelait Jackson. Et ça, je crois qu'il y a des choses qui n'ont jamais brillé dans les nations. Ça a brillé à Jérusalem, mais ensuite, très rapidement, à la mort des apôtres, ça s'est terminé. Dans l'Église primitive, l'Église était établie d'une façon merveilleuse, parfaite, jusqu'à ce que les apôtres, malheureusement, décèdent, et puis que ça soit repris par petit à petit, enfin assez rapidement, par des imposteurs. Mais donc, dans la première Jérusalem, la vie de l'Église était telle que Jésus la voulait. Ça, on ne peut pas nier. Certains pasteurs, j'en ai entendu prêcher ça, disant que les apôtres se sont trompés en disant aux gens qu'il fallait tout vendre et venir vivre en communauté. Non, ils ne se sont pas trompés. Jésus avait dit aux gens, à ses disciples, de renoncer à tout et de le suivre. Et dans Matthieu 28, il a dit à ses disciples, tout ce que je vous enseignais, enseignez-leur aux autres. Faites des disciples. Et il leur a dit aussi, quiconque ne renonce pas à tous ses biens ne peut pas être mon disciple. Donc pour être disciple, la première chose à faire, c'est d'abord se décider, ensuite renoncer à ses biens, tout mettre aux pieds des apôtres. Et puis, les premiers disciples vivaient en communauté avec Jésus. Hein, c'est clair. Donc si les premiers ont vécu comme ça, c'est parce que Jésus l'a enseigné et les apôtres ont enseigné ce que Jésus leur a enseigné. Il a dit, allez et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Donc la première église était une église communautaire. Mais aujourd'hui, nous savons qu'une nouvelle Jérusalem se prépare. Elle se pare tout comme le fait une épouse qui se prépare pour le jour de son mariage. Alors ceux qui veulent donner une date, ils disent, mais toutes les épouses savent très bien la date de leur mariage. Alors il n'y a pas de raison qu'on ne sache pas la date de notre mariage. Oui, s'ils veulent, c'est bien. Je pense que peut-être c'est possible que 7 jours avant, on soit averti, comme Noé a été averti 7 jours avant que le déluge allait arriver. Puisque Jésus dit, voilà, ce qui est arrivé au temps de Noé, ça arrivera aussi à la fin. Donc c'est possible que 7 jours avant, le Seigneur nous dise, voilà, maintenant c'est bon, je reviens dans 7 jours. C'est possible, pourquoi pas? Mais moi je cherche pas, c'est pas mon ministère. Mon ministère c'est d'aider l'épouse à se préparer, à se parer, comme on vient de le lire tout à l'heure, pour être correctement et distincte des autres. L'épouse, elle est... Ben, écoutez, vous allez dans un mariage, si une femme est mieux habillée que la mariée, c'est quand même bizarre. La mariée, c'est la plus belle, toujours. Hein? Oui ou non? Sauf quand je vais à un mariage avec mon épouse, c'est elle la plus belle. Mais autrement, c'est toujours la mariée la plus belle. Donc, cette nouvelle Jérusalem est l'épouse. Elle est préparée comme une épouse, ayant pour fondation l'enseignement des 12 apôtres de l'agneau, qui ont reçu leur enseignement de l'agneau et qui ont reçu l'ordre de diffuser cet enseignement pour faire des disciples. Et les disciples sont ceux qui renoncent à tous leurs biens, selon Luc 14, 33. Alors, où est-ce qu'on peut être sûr que notre fondation, c'est les apôtres, que la Nouvelle Jérusalem a pour fondement les apôtres? Eh bien, on trouve ça dans Apocalypse 21, toujours au verset 14, c'est clairement dit que la muraille de la ville, donc de la Nouvelle Jérusalem, avait 12 fondements sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Oui. Voilà, donc il n'y a pas de problème. C'est le fondement des apôtres. L'Église elle est bâtie comme ça. Or, cette Église, mes frères et sœurs, elle n'existe pas sur la terre. Quelle est l'Église qui, aujourd'hui, a pour fondation le fondement posé par les apôtres? Aucune. J'en vois pas. Je regarde partout, je cherche, je trouve pas. Tous lisent la Bible, tous lisent par exemple Acte 2, Acte 4, ils lisent Luc 14, 33, ils lisent toutes ces choses-là, mais aucun ne voit que l'Église d'alors, la première Jérusalem, était une communauté de vie. C'était pas un groupe de personnes qui va à l'Église, qui va dans un local appelé Église. Je vois ça nulle part dans la Bible. Je vois nulle part dans la Bible. Et je ne vois pas dans ce monde une église qui soit comme celle qu'il y avait à l'époque, à la première Jérusalem. Quand je lis ces textes sacrés de Actes 2 et 4, je me dis, ben voilà, là, il est question de nous. Un peu comme Jésus, quand il s'est mis dans la synagogue, il s'est levé, il a lu, il a dit, voilà, ce texte est accompli. Eh bien, nous, nous pourrons dire maintenant, nous, ce texte est accompli. En tout cas, nous l'accomplissons. Peut-être qu'il y en a d'autres, je ne sais pas. Oui. Je ne sais pas. Jusqu'à maintenant, écoutez, ça fera 40 ans l'année prochaine, ben je n'en ai pas rencontré d'autres. On n'en a pas rencontré d'autres. C'est bizarre quand même. Et on a eu des centaines et des centaines de chrétiens qui sont venus nous visiter et tous sont stupéfaits en disant mais on n'a jamais vu ça nulle part. Alors bon, voilà quoi. C'est étonnant. Et parce que nous avons eu cette sorte de foi-là, voilà maintenant, ça fait maintenant 39 ans, ça fera 40 ans l'année prochaine, il faut qu'on fasse une fête pour ça. Hein. Eh bien, parce que nous avons eu cette foi-là et que nous sommes restés fidèles à notre engagement, eh bien, nous sommes à même de recevoir les choses qui manquent aux églises, parce qu'il leur manque encore beaucoup de choses. Il n'y a pas que ça qui leur manque, mais il leur manque beaucoup de choses. À ces organisations, je ne veux pas dire à ces églises, je veux dire à ces organisations humaines qui se sont données le nom d'église. Alors, leur nom d'église, c'est l'église protestante luthérienne, l'église protestante calviniste, l'église catholique, l'église assemblée de Dieu, l'église baptiste, l'église méthodiste, l'église ceci, l'église cela. Ils ont raison de s'appeler comme ça. Église luthérienne, église calviniste, église wesleyenne. Ils ont raison de s'appeler comme ça parce que, eh bien, c'est ce qu'ils sont, ces églises. Mais où est l'église de Jésus-Christ? Aucune de ces églises ne porte le nom de Jésus-Christ. Pourtant, c'est notre époux. Vous voyez ? Et quand on a un époux, on porte son nom. Ben, eux, non. Ils portent un autre nom. Où est l'église de Jésus-Christ ? Celle qu'il organise lui-même. Celle qui ne porte aucun autre nom que le sien, que le beau nom de Jésus-Christ. Alors Jésus dit, je me rappelle même, frère Branham disait, c'est quand même terrible, moi qui prêche contre les églises dénominationnelles, ces églises qui se donnent un nom, eh bien, notre propre église locale s'appelle le Branham Tabernacle. Il disait, il faudra qu'on change ça. Puis là, ils n'ont jamais changé ça, hein. C'est toujours resté comme ça. Parce que les choses doivent être rétablies par Dieu. Il y a le moment de Dieu, il y a l'heure de Dieu. Jésus a dit, je bâtirai mon église. C'est lui qui l'a bâti. Donc, on n'a pas à s'inquiéter. Matthieu 16, 18, « Je bâtirai mon Église. » Et sur quel fondement bâtira-t-il son Église ? Sur le fondement de la révélation que Pierre a reçue. « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Voilà, c'est sur cette révélation que Jésus bâtit son Église et les apôtres n'ont pas organisé l'Église comme ils ont voulu. Ils l'ont organisé, ils ont fait ce que Jésus leur a dit de faire et ils ont fait et ils ont vécu la vie communautaire, c'était ça l'Église, c'est clair. Celle dont nous parle Actes chapitre 2, Actes chapitre 4, et ensuite on voit dans les lettres, l'Église qui est dans la maison de un tel, l'Église qui est dans la maison de un tel, c'était des maisons, l'Église c'était des maisons communautaires. Alors les chrétiens aujourd'hui ne veulent pas, ils disent non, c'est pas bien, c'est faux, d'ailleurs ça s'est vite arrêté, oui ça s'est vite arrêté, et on a l'explication, c'est parce que l'amour s'est refroidi. Voilà pourquoi ça s'est arrêté. L'amour s'est refroidi dès le premier âge, Apocalypse 2, 4. Dès le premier temps de l'Église, tout de suite, Jésus leur reproche, voilà, tu as perdu ton premier amour. Ils n'ont pas perdu l'amour pour Dieu, ils ont perdu l'amour fraternel. Ils commençaient à se méfier des apôtres, déjà l'apôtre Paul. Qu'est-ce qu'ils ont pu taper sur lui, le pauvre apôtre Paul? Et puis on ne nous dit pas tout le reste, mais ils se sont vus de toutes les couleurs, ces pauvres. Mais c'est facile, quand vous avez quelqu'un qui est devant, ben c'est sur lui qu'on tire en premier, hein. C'est normal. Et les chrétiens se sont organisés parce que, n'ayant plus d'amour, ne voulant plus vivre avec les uns et les autres, oui, c'est difficile, tu te rends compte, alors on a une douche pour quatre personnes, c'est insupportable, voilà. Ben, c'est un peu le genre, hein, c'est comme les juifs dans le désert, oh là là, on préfère être en Égypte, vous vous rendez compte, ici, on n'a même pas de concombre. Mais c'est écrit, hein. C'est toujours pour des futilités. Alors, manque d'amour. Donc, les chrétiens se sont organisés en synagogue. Le mot synagogue signifie assemblée. Alors, voilà. Ben, on devrait appeler les assemblées de Dieu, on devrait l'appeler la synagogue de Dieu. Parce que le mot assemblée signifie synagogue. Voilà. Alors, voilà où ils en sont aujourd'hui. En ce jour de dimanche, les chrétiens du monde entier vont à l'église, dans un bâtiment qu'ils appellent église. Et puis, j'ai même un ami, là, qui est en train d'inaugurer son église, en ce moment même, là. Ben, c'est l'histoire qui se déroule, c'est comme ça que ça doit se dérouler. Mais nous voulons suivre la vision biblique, nous voulons suivre l'esprit et faire, quoi que cela nous coûte, la volonté de Dieu. Amen.
Amen.
Oui. Alors, ce ne sont pas des églises, mes frères et sœurs. Ce sont des clubs religieux calqués à la façon juive. Comment s'est arrivée cette histoire de synagogue? Au début, il n'y avait pas de synagogue. Les synagogues, c'est né comme ça. Au début, le peuple juif, c'était une théocratie, c'était une communauté. C'était une communauté, ils avaient le temple, voilà. Et puis, ils se sont mis à apostasier. Ils ont abandonné petit à petit leur amour pour les choses de Dieu. Ils ont fait n'importe quoi. Vous lisez l'Ancien Testament, c'est bourré d'histoires comme ça. Et finalement, ils ont été chassés à Babylone. Et c'est là, à Babylone, ils n'avaient plus le temple, ils savaient plus comment faire. Et pour pas perdre leur identité, pour pas perdre, n'est-ce pas, leur les choses de leur foi, eh bien, ils ont décidé de se rassembler, de se mettre en assemblée de temps en temps, le jour du Shabbat, ils s'assemblaient, et puis c'est devenu des synagogues, des assemblées, quoi. Donc, il y avait le bon rabbin qui se mettait devant, et puis qui enseignait, et puis les autres, ben, ils étaient assis, et puis ils écoutaient, et puis voilà. Puis voilà comment sont nés. C'est à Babylone que les synagogues sont nées. C'est à Babylone que les assemblées sont nées. C'est quand même bizarre. Vous avez la première Jérusalem, la première église, vous avez la deuxième Jérusalem, celle qui vient, qui est parée comme une épouse, vous avez la première Babylone où est née la synagogue, et vous avez la deuxième Babylone qui est Rome. Faut arrêter de nous dire que c'est les États-Unis, ça c'est les Américains qui disent ça. Ils vivent en Amérique et ils voient tout par l'Amérique. Et pour eux, non mais c'est faux, c'est pas ça, c'est pas juste ce qu'ils disent. La Babylone c'est Rome, point barre. Point barre, c'est rien d'autre. Pourquoi est-ce qu'ils se sont organisés en synagogue? Ben parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. Et l'église de Jésus-Christ a suivi le même chemin. L'église a été infestée par Babylone, par Rome, par la nouvelle Babylone, Rome. Et les chrétiens ont cessé d'obéir de cœur à l'enseignement des apôtres, qui tenaient leur enseignement de Jésus-Christ, le fondateur de son Église. On trouve ça dans Matthieu 28, 20, où il dit « Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit ». Donc les apôtres, quand ils ont créé l'Église, ils n'ont pas créé sur un coup de tête, ils n'ont pas commis une erreur, la vie communautaire, quand ils ont dit aux gens de vendre tous leurs biens et de mettre à leurs pieds afin de distribuer à chacun selon ses besoins, c'était pas un coup de tête, c'était pas une escroquerie, c'était pas un élan du cœur stupide de 4000 personnes tout d'un coup. Non, non. C'était parce que c'était la volonté de Jésus. Et la vraie église, cette église-là, elle a disparu de la terre. Et il est resté des croyants, bien sûr, mais plus ou moins éclairés, sincères, certes, pour beaucoup, mais ils ne sont pas de la vraie église. Ils ne sont pas la vraie église. Parce que la vraie Église, elle n'est pas gérée comme ça. Elle n'est pas une assemblée, elle est une communauté. Ah, ils se sont mis à vivre dans leur fausse Église, l'Église catholique. Et certains, au cours des âges, sont sortis de là. C'est pourquoi l'Église catholique, qui est nommée dans Apocalypse 17, 1, la grande prostituée, eh bien, cette grande prostituée, eh bien, elle est appelée aussi la mère des prostituées dans Apocalypse 17, 15. Alors, on va lire les textes, parce que c'est bien de lire les textes. Apocalypse 17, 1. Alors, c'est ça. C'est puis un des sept anges qui tenait les sept seaux, les sept coupes, vint et m'adressa la parole en disant: viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux, c'est-à-dire sur les peuples. Hein. Les grandes eaux représentent toujours les peuples. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. C'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont livrés, etc., etc. Donc on voit tous les rois vont là-bas, les présidents vont là-bas. Et puis au verset 15, toujours 17, et il me dit: les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples. Vous voyez, je vous raconte pas des histoires. Hein, ce sont des peuples, des foules, des nations, des langues. C'est le verset 5 que je voulais vous lire, excusez-moi. Et sur son front, donc sur le front de cette prostituée, de cette femme prostituée, sur son front est écrit un nom, un mystère: Babylone la Grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. En la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Alors, il faut pas oublier quand même que c'est vrai, ils ont massacré pas mal de chrétiens. Je retrouve plus le passage où il est dit que elle est la mère des prostituées. Je l'ai lu.
Oui.
Ah oui, la mère, voilà. Voilà. Ok, donc, elle n'est pas la mère de toutes ces pauvres femmes que vous voyez le long des routes, sur les parkings ou dans les rues sombres qu'on appelle des prostituées. Non, non, elle est la mère de toutes ces églises qui sont sorties d'elle. Elle a accouché, ça s'est sorti d'elle. L'église catholique est la mère de toutes ces églises qui sont sorties d'elle et qui se sont formées plus ou moins à l'image de leur mère. Hein, avec un nom qui n'est pas celui de leur époux. Avec un bureau central, et puis avec un gourou, avec un... Voilà, c'est comme ça. Là, je viens de voir, il y a quelqu'un qui a été nommé apôtre par imposition des mains, et l'homme qui a nommé cet homme apôtre par imposition des mains, eh bien, le mari de sa femme travaille dans un hôpital pas très loin. Qu'est-ce que vous dites de ça? Voilà, puis c'est qu'une chose parmi d'autres, mais ça vient d'arriver. Bref, c'est des organisations humaines, plus ou moins mélangées avec la Bible. Voilà. Aujourd'hui, Dieu a rétabli premièrement la prêtrise en envoyant, alors c'est là que vous allez sauter au plafond, mais tant pis, mais je vais prendre du temps pour vous expliquer ces choses-là. Mais là, je brosse le tableau en gros. Dieu a rétabli premièrement la prêtrise en envoyant Jean-Baptiste qui a rétabli la prêtrise et il a donné les clés correspondant à cette prêtrise. Ça, c'est arrivé au mois de mai 1829. Mais on va revenir sur ces choses et je vous expliquerai bien correctement comment ça s'est passé, avec qui ça s'est passé et ce qui s'est passé par la suite. C'est des choses que vous ne savez pas et c'est normal que vous ne les sachiez pas parce que le prince de ce monde ne veut pas que vous sachiez ça. Et les chefs religieux ne veulent pas non plus que vous sachiez ces choses parce que ils ne veulent pas que vous alliez dans la vraie église. Ils veulent que vous alliez, que vous restiez dans ces machins organisés à la façon juive de Babylone. D'accord? Puis, Pierre, Jacques et Jean sont aussi apparus et ils ont aussi rétabli la prêtrise selon leur dispensation. Tous ces hommes qui sont apparus sont apparus pour rétablir la chose, leur dispensation et les clés qui vont avec, parce que c'est absolument utile puisque toutes choses doivent être rétablies. Et ensuite je vous entretiendrai prochainement. Je suis même en train d'écrire un texte là-dessus que je suis en train de faire lire dans la communauté et on va bientôt le mettre. Vous pourrez le lire en PDF sur Révélation Bible, ça sera plus simple en lecture parce que quand on lit quelque chose, on peut prendre des notes, on peut relire et c'est plus simple que par écrit. 7 ans après ça, le Seigneur est apparu et puis Moïse, Elias et Élie sont apparus aussi. Alors j'entends d'ici des gens qui vont me dire « Oui, mais Moroni ne peut pas apparaître parce que c'est un homme qui est mort et les morts n'apparaissent pas. » Et puis Jacques et Jean sont morts, ils ne peuvent pas apparaître. Et puis, voilà. Alors, à cela, c'est simple de répondre. C'est simple de répondre avec la Bible. Qui est apparu à Pierre, Jacques et Jean sur le mont de la Transfiguration? Qui?
Moïse
et Élie. Élie, oui, il n'est pas mort. Il était enlevé dans un tourbillon. Mais Moïse est apparu. Ouais. Et d'après les Saintes Écritures, d'après Deutéronome 34:8, il nous est dit que Moïse est mort. D'accord? Alors, les morts peuvent-ils apparaître? Ben, si Dieu veut, oui. Là, en tout cas, en présence de Jésus, en présence de Pierre, Jacques et Jean, Moïse, le mort, est apparu. Désolé, je crois plus dans la parole de Dieu que dans les doctrines troubles, fausses, et les connaissances erronées de ces églises qui n'en sont même pas. C'est simple, c'est clair, c'est net. Alors, comme beaucoup de ces doctrines dans toutes ces fausses églises, elles sont fausses. Elles sont en partie vraies, puis en partie fausses. C'est un mélange d'idées humaines et d'idées bibliques. Or, tous ces gens, dont Élie, sont apparus afin de conférer à nouveau la prêtrise et pour donner les clés qui y sont associées. Et dire, c'est quoi ce chinois? Eh bien, ça s'explique, et vous allez comprendre, je vais vous donner une explication. Il n'y avait plus d'église. Il n'y avait donc plus de prêtres. Maintenant, l'église de Jésus-Christ peut être rétablie avec des prêtres ordonnés correctement et avec les clés qui sont associées à la prêtrise. Je vais vous parler le plus simplement possible. Jésus faisait comme ça, il donnait des paraboles pour expliquer les choses afin qu'elles soient claires, que les gens les comprennent. Alors je vais vous raconter une petite parabole parce que cet été est arrivé quelque chose à nos voisins, et puis, bon, ben, vous savez, tout ça, ça gogite, et puis ça fait réfléchir, et puis au travers des lectures que je fais, etc., etc., finalement. Voilà la petite parabole. Je vous pose une question. Pour pouvoir conduire une voiture, vous avez l'obligation légale d'avoir un permis de conduire. C'est comme ça. Maintenant, qui délivre le permis de conduire des voitures? C'est une autorité légale. Dans Romains chapitre 13, verset 1, il nous est dit qu'il faut être soumis aux autorités. Maintenant, si les autorités vous permettent de conduire un carton à chaussures sans permis, vous savez, ces petits machins-là qui roulent, qui font du 60 à l'heure sur la route, c'est l'autorité qui vous permet de le faire. Bon, voilà, elle vous permet de le faire, c'est gentil, c'est bien. Mais normalement, une voiture ne peut pas se conduire sans permis. L'autorité légale, nous devons nous soumettre à ces autorités parce qu'elles ont été établies par Dieu, Romains chapitre 13, verset 11. Or, il y a des gens qui conduisent leur voiture sans avoir de permis. Comment est-ce qu'on nomme les gens qui conduisent une BMW, une Alfa Romeo ou une Mercedes sans permis? Comment est-ce qu'on nomme ces gens-là? On les nomme des hors-la-loi. On dit que c'est des voyous. Et il y a même un nouveau mot maintenant, on dit c'est de la racaille. N'est-ce pas la vérité? C'est des gens qui ne sont pas gentils du tout. Hein, pour être chrétien, on pourrait dire ça, c'est moins fort que racaille, mais ça veut dire la même chose. Il y a des gens qui fabriquent des faux permis de conduire. Moi je me rappelle, quand j'étais jeune, on m'a dit, Michel, il suffit d'avoir 2000 francs, à l'époque c'est 2000 francs, tu vas au Trocadéro, là-bas on connaît quelqu'un, tu lui donnes les 2000 francs et tu fais un permis. C'était des chrétiens qui m'ont proposé ça. Je ne veux pas vous dire qui c'est. Je ne veux pas salir la personne. Mais c'est des chrétiens. Et il y a beaucoup de chrétiens, je ne veux pas dire lesquels, mais ça va à peine lire, à peine écrire en France. Et presque tous leurs permis viennent de là. Ça ne veut pas dire qu'ils ne savent pas conduire, mais bon, voilà. Comment est-ce qu'on nomme les gens qui fabriquent des faux permis de conduire? On les nomme des faussaires. N'est-ce pas la vérité? C'est la vérité. Alors voilà, l'image, elle est claire comme ça, quand on l'explique comme ça. L'église de Jésus-Christ a disparu de la terre peu après la mort des apôtres, c'est devenu du n'importe quoi. Une fausse église a pris illégalement l'autorité, ce sont des faussaires. Cette fausse église a donné des permis de conduire la fausse église. Elle a donné l'autorité à des évêques, à des prêtres, à des je ne sais pas quoi. Maintenant, le nouveau mot à la mode, c'est des bishops. Oh là là. Vous allez en Afrique, ils sont tous bishops. Voilà, bishops. Et puis, il y a eu des gens qui ont protesté. Ils ont bien fait de protester, mais ils n'ont pas reçu de Dieu l'autorité pour avoir... Ils n'ont pas reçu le permis de conduire l'Église. Parce que les églises qu'ils ont fondées n'étaient toujours pas selon le modèle de Actes 2, 4. Il fallait que ça soit rétabli. Vous voyez, mes frères et sœurs ? Ces gens-là ont été plus ou moins sincères, puis de toute façon, il fallait bien organiser ce qui se passait, ces réveils. C'était, Dieu était en train de commencer le rétablissement de, par une réforme, il fallait bien organiser tout ça. Donc ils ont organisé comme ils ont pu et comme ils savaient. Alors, comme ils ont vu que les catholiques faisaient comme ça, ben, ils ont dit, bon, on va faire comme ça, en modifiant un petit peu, en rendant ça un peu plus biblique. Mais aux yeux de Dieu, c'était de l'agitation humaine. Dieu n'a pas condamné ça. Dieu est amour, mais c'est pas juste, juste, juste. Alors, des écoles de théologie ont commencé à distribuer des permis de conduire les églises. Moi-même, j'en ai fait trois de ces écoles bibliques, et je dis pas que c'est mal, les écoles bibliques, mais le diplôme qu'ils vous donnent, c'est, aux yeux de Dieu, c'est pipeau. C'est rien du tout. C'est rien du tout. Est-ce que c'était juste selon Dieu, aux yeux de Dieu? Est-ce que c'est juste selon les Écritures? Non. Non, je suis désolé, je suis obligé de dire non. Alors voilà, maintenant, c'est ce qui permet tous ces faux prophètes, ces faux pasteurs, ces faux évangélistes, ces faux ceci, ces faux cela, ces autoproclamés, toute cette bande de riquis, qui se mettent à conduire des clubs qu'ils nomment Église. Il y en a des biens, il y en a des gentils, il y en a des honnêtes, il y en a des spirituels, mais c'est pas exactement correct selon les Écritures, parce qu'ils ne sont pas entrés dans le rétablissement. Ils doivent passer dans ce rétablissement et être établis par Dieu, selon Dieu, comme Dieu le veut. Et cela donne ce qu'on voit aujourd'hui, de nos jours, et comme je dis, il y a des braves chrétiens dans toutes ces... dans tous ces clubs, mais ils n'ont pas de vrais bergers. Ils ont des bergers, mais ce n'est pas des bergers selon les Écritures. Maintenant, avoir le permis de conduire, c'est une chose. Avoir la prêtrise, c'est une chose, c'est sûr. Vous avez compris que la prêtrise, c'est donc le droit, c'est le permis de pouvoir conduire. Hein. Mais, si vous avez le permis, mais que vous n'avez pas les clés pour faire avancer la voiture... ben, le permis ne vous sert à rien du tout. Il est dans votre portefeuille, et puis voilà. Eh bien, votre permis, il ne sert à rien si vous n'avez pas les clés qui vont avec. De nos jours, Jésus a rétabli son Église telle qu'elle était à Jérusalem, et il a rétabli la prêtrise, c'est-à-dire il a donné le permis de conduire l'Église, son Église, celle qui est conforme à ce qui était à Jérusalem. Mais il a aussi donné les clés qui sont attachées à cette prêtrise. Les clés avaient été perdues depuis des siècles. Alors, une petite histoire qu'on a vécue cet été, nous avons des voisins qui louent une maison, et la maison était occupée par trois couples, je crois, et il y a un de ces couples avec une magnifique voiture, mais... voilà qu'un jour, ils sont aperçus qu'ils avaient perdu les clés de la voiture. Eh ben, ils étaient embêtés. Vous voyez, dans les vacances, ils perdent les clés de la voiture, donc ils n'avaient plus accès à la voiture. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? On a plus de clés, qu'est-ce qu'il faut faire? Ils étaient ennuyés, ça faisait mal au cœur. Ils pouvaient rien faire sans les clés. Même avec le permis. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, de même, les pauvres chrétiens n'ont pas accès à la vie de l'Église si ils n'ont pas les clés. Je dis bien, ils n'ont pas accès à la vie, c'est-à-dire vraiment à ce que Jésus donne. La vie, c'est Jésus. C'est simple à comprendre. C'est simple à comprendre. Toutes leurs cérémonies, leur culte, leur louange, leur baptême, leur mariage, Bref, toutes les ordonnances de l'évangile de Jésus-Christ qui doivent avoir lieu dans l'Église selon Actes 2, 4, tout cela ne peut être fait en esprit et en vérité, puisque c'est faux. Ils n'ont pas les clés, ils n'ont même pas la prêtrise, ils n'ont pas l'Église, ils ont quoi? Ils ont... Voilà. Vous comprenez maintenant pourquoi Babylone est la mère des prostituées, c'est-à-dire de toutes ces églises qui se sont prostituées, qui ont abandonné la parole de leur époux au profit d'une politique, ou alors voilà, ben je t'aime pas, donc je sors de ton machin, puis je me fais mon propre machin à moi, puis voilà, des choses comme ça, vous voyez. Et c'est ça ce qui se passe dans le monde, et vous en avez qui sont plus ou moins imposants. Et puis voilà, puis alors on se dit, ah bon, quand même, Dieu les bénit, c'est merveilleux, mais Dieu les maudit pas. Dieu tolère, comme il tolère les synagogues chez les juifs pendant des siècles. Jésus a prêché dans les synagogues, comme il tolère que les gens divorcent, parce que ben, c'est à cause de la dureté du cœur, Dieu tolère beaucoup de choses, mais ça n'est pas la bonne chose. Il faut que la bonne chose soit rétablie. Parce que Jésus ne reviendra qu'au temps du rétablissement de toutes choses, il ne viendra pas avant. Alors vous pouvez crier, chercher la date, tout ce que vous voulez, mais si vous ne rentrez pas dans le rétablissement, il y a de fortes chances que vous restiez sur la terre pour la tribulation. Alors ils louent Dieu, ils se font asperger ou immerger, ils font bénir leur mariage jusqu'à ce que la mort les sépare, et Dieu ne maudit pas ça, mais surtout... Pour ceux qui sont sincères, Dieu ne maudit pas tout ça, mais voilà, ça n'est pas dans l'ordre. Toutes ces ordonnances, ces clés, doivent être retrouvées et rétablies. On doit les faire tourner dans la bonne serrure. Hier soir aussi, c'était rigolo, c'est arrivé, j'y pense seulement maintenant, tiens, on ne trouve plus la clé pour fermer la porte de la maison. Alors, finalement, c'était Stéphane qui l'avait dans sa poche. On a retrouvé la clé. Vous voyez, c'est important la clé, sinon on aurait dormi dans une maison ouverte. Eh ben, c'est pas bien non plus, hein, dormir dans une maison ouverte. Bon, là où on est, on risque rien du tout. Tout le monde est brave, tout le monde est gentil, tout le monde il est beau. C'est merveilleux. Les clés, elles ont été perdues. Et puis aussi, on a transformé les clés, on a transformé les serrures, on a perverti toutes ces choses, on a changé les choses. Le baptême, c'est devenu... cérémonie pour les enfants, on a inventé, à la place de faire le baptême pour les morts, on a inventé le purgatoire, c'est plus pratique, et puis on fait des prières, on fait brûler des bougies, et puis on a inventé le culte à Marie, et puis, donc les clés ont été transformées, voilà, il y a beaucoup de choses comme ça, puis les protestants ont ramassé des fausses clés, puis ils les trimballent encore aujourd'hui, puis les pentecôtistes ont aussi ramassé là. Des fausses clés, les trimballent avec eux aussi, et puis donc il y a des fausses serrures, des fausses portes, des fausses églises, tout est faux. Enfin pas tout, il y a des bonnes choses aussi par dedans, et que Dieu bénit, mais c'est pas encore rétabli. Bref, c'est pas étonnant qu'une personne qui aime la vérité ne se sente pas à l'aise dans ces clubs appelés abusivement églises. C'est clair. Jésus dit, celui qui cherche, y trouve. Vous n'êtes pas satisfait dans votre christianisme, cherchez et vous trouverez. Voilà. Aujourd'hui, je viens de vous donner une voie. Je viens de vous mettre sur la voie. Cherchez et vous trouverez. Vous voyez, la prêtrise et l'autorité de la prêtrise, c'est le pouvoir et l'autorité de Dieu. C'est le pouvoir suprême ici-bas. Les clés de la prêtrise sont l'autorité, pas l'autoritarisme, mais c'est l'autorité dans le sens du droit divin. Comme par exemple, vous avez celui qui donne le permis de conduire, c'est pas un homme autoritaire, c'est pas une femme autoritaire, c'est une personne qui a le droit de le faire. Elle a l'autorité pour le faire. Vous voyez, c'est très différent que d'avoir une espèce de petit chien dans une église qui aboie sur les chrétiens et qui croit avoir de l'autorité. C'est pas ça l'autorité, hein. Toi tu es ceci, toi tu es cela, toi je te vire, etc., etc. C'est pas, bon. C'est le droit divin. Les clés de la prêtrise, c'est le droit divin donné par Dieu pour diriger, pour superviser, pour gouverner, pour administrer les ordonnances, pour pouvoir utiliser la prêtrise sur la terre. C'est rien d'autre que ça. C'est rien d'autre que ça. Alors, il y a des degrés dans la prêtrise. Vous avez les cinq ministères en premier, et puis après vous avez aussi tous les chrétiens sont des prêtres aussi, mais on n'est pas tous au même niveau, on n'a pas tous les mêmes responsabilités, mais ça on y reviendra, et on étudiera tout ça, et vous saurez toutes ces choses d'après les Écritures et d'après ce que le Saint-Esprit dit à l'Église aujourd'hui. Les clés de la prêtrise autorisent, permettent l'exercice de l'autorité de la prêtrise. À quoi ont droit ceux qui vivent acte 2, acte 4, c'est-à-dire la vie communautaire? Eh bien, à la clé du rassemblement donné par Moïse, apparu en 1836. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Ben, je vais vous expliquer tout ça, mais pour le moment, je fais le tableau, puis après on ira voir dans les détails, dans les jours qui viennent. Ceux qui vivent l'Église rétablie, c'est-à-dire l'Église qui est telle qu'elle était au début, Ça a été fait, on l'a commencé il y a 39 ans, ça. On va fêter les 40 ans l'année prochaine, eh bien nous avons maintenant la possibilité, nous avons la clé du rassemblement donné par Moïse apparu en 1836. Qu'est-ce que c'est cette clé? C'est Moïse, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rassemblé son peuple pour le conduire en dehors de l'oppression des Égyptiens. Eh bien, c'est ce que nous avons comme clé. Une clé de rassemblement. C'est pas magnifique, ça? Mais aussi, nous avons la clé de rassemblement donnée par Moïse pour évangéliser correctement. C'est-à-dire, pour rassembler le peuple de Dieu, qui n'est pas encore, qui est là, dans les maisons que nous voyons autour de chez nous, que nous voyons un peu partout dans le monde, là où nous allons prêcher l'évangile. Eh bien, il y a là des gens qui font partie du peuple de Dieu, donc ces clés de rassemblement données par Moïse, c'est aussi pour évangéliser correctement le peuple, afin qu'il soit rassemblé autour du serpent d'airain, pour être guéri, c'est-à-dire autour de Jésus-Christ dans la communauté. Vous savez que, comme le serpent d'airain a été élevé, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque regarde vers lui puisse être sauvé, être guéri, etc., etc. Eh bien, c'est ce pouvoir-là qui a été rétabli. Ensuite, viennent les clés de la dispensation d'Élie pour aider les personnes décédées de nos familles et aussi les autres à entrer dans la présence de Dieu pour l'ordonnance du baptême pour les morts. C'est ainsi que s'accomplit la prophétie de Malachie, chapitre 3, verset 24, je vous lis. Dans d'autres versions, c'est Malachie 4, 6. Vous voyez, ça dépend des versions. Dans la mienne, là, c'est comme ça. Où il est écrit, « Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable, c'est-à-dire peu de temps avant que le jour de l'Éternel arrive. » Supposons que Jésus revienne là, dans les 6 mois, je ne sais pas, mais supposons, eh bien, le jour de l'Éternel, c'est 7 ans après, hein, donc c'est très peu de temps. Alors, Élie, qu'est-ce qu'il va faire? Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays ou la terre d'interdit. Eh bien, ces clés nous rapprochent de nos pères et elles rapprochent les pères de leurs enfants. C'est-à-dire que nous avons un ministère auprès de nos pères, et ça les rapproche de nous, et ça nous rapproche d'eux. C'est pourquoi je vous exhorte à nouveau, et vous qui écoutez sur Internet, à faire des recherches au sujet de votre généalogie, au sujet de vos ancêtres, afin que nous puissions nous faire baptiser à leur place. Rappelez-vous que dans 1 Corinthiens 15, 9, il est écrit, et Paul n'est pas contre, qu'il y a des gens dans l'Église qui ont ce ministère de se faire baptiser pour les morts, à la place des morts. Et ils le font parce qu'ils sont sûrs que Jésus-Christ est ressuscité. Et ils sont sûrs que, comme l'apôtre Pierre le dit, Jésus est allé prêcher aux morts, il est allé leur prêcher l'Évangile, afin qu'après avoir été jugé quant à la chair, ils puissent vivre selon Dieu quant à l'Esprit. C'est-à-dire, ils sont morts, ils ont été jugés, mis dans le mauvais côté du séjour des morts, attendant le jugement dernier, qui n'a pas encore eu lieu, Mais en attendant le jugement dernier, ils entendent l'évangile là dans le séjour des morts et ils peuvent se convertir, mais ils ne peuvent pas être baptisés. Et comme la condition c'est croire et être baptisé, eh bien c'est nous qui nous faisons baptiser à leur place. Bon, j'ai déjà dit 1000 fois, je le répète encore, afin que ça soit bien clair, que vous compreniez bien, ces choses ont été rétablies, donc faites des recherches. Recherchez au moins vos ancêtres, ceux de votre famille. Parce que quand vous arriverez au ciel, et qu'il y aura le jugement, ceux de votre famille vous accuseront de ne pas avoir été chercher leur nom et de ne pas avoir accompli les ordonnances pour leur bien, alors que vous étiez dans l'église, alors que vous aviez quelqu'un qui vous enseignait ces choses. C'est clair ? Ces clés ont été perdues, cet enseignement que je vous donne là, ça a été perdu pendant des siècles. Ils ont remplacé cet enseignement par l'abomination du purgatoire, avec les messes qu'on fait régulièrement, payantes, etc., etc., les bougies, prières pour les morts, tout ce que vous voulez. Bon, ça c'est la perversion, c'est les fausses clés dans les fausses serrures de la fausse église et la grande Babylone, mère de toutes les prostituées. Et elles ont été perdues, donc les clubs chrétiens ne les ont pas, et s'ils n'entrent pas dans la prêtrise avec les clés qui y correspondent, eh bien, la menace, c'est que la terre va être détruite. C'est-à-dire, tous ces gens qui pourraient être au bénéfice de ce que nous avons à faire pour eux, c'est-à-dire le baptême pour les morts, terminé. Vous voyez que nous avons une part de responsabilité. Hein, je relis la prophétie de Malachie. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Eh oui. Ah bon, s'étonne. Dieu frappera le peuple, la terre, de destruction, d'interdit. Il sera terminé. Mais pour vous qui savez cela maintenant, eh bien, prenez vos responsabilités. Je connais des gens qui écoutent là le message, qui ont toute leur généalogie. Ça fait 2 ans, 3 ans qu'il me dit je vais te l'envoyer pour que tu fasses les baptêmes. Et ils ne l'ont toujours pas fait. C'est de la négligence spirituelle. C'est vous qui voyez. Ensuite, il y a les clés données par Abraham. Ce sont des clés pour avancer avec foi. Abraham est le père de la foi, il a reçu des promesses. Pour vous aider à devenir ce que Dieu veut que vous deveniez, vous avez besoin de la foi. Et souvenez-vous qu'Abraham a reçu des bénédictions qui lui ont été données. On les appelle les alliances, on l'appelle aussi ces bénédictions, on les appelle les alliances abrahamiques, hein, pour ceux qui connaissent un petit peu les termes bibliques. Et grâce à ces bénédictions faites à Abraham, et qui sont rétablies aujourd'hui, ces bénédictions peuvent être les vôtres. Si vous restez fidèle, si vous menez une vie digne, évidemment. Alors, efforcez-vous d'être obéissant, efforcez-vous de faire ce que vous avez à faire, de ne pas être négligent, et donnez-vous de la peine. Vous aurez une récompense ou vous n'en aurez pas. C'est vous qui voyez. Moi, je peux simplement vous dire la vérité, et puis après, vous direz, bon, Michel est hérétique, ou Michel a raison, mais moi, je m'en fiche, hein, je sais ce que j'ai à vous dire, je sais qui je suis, je sais ce que j'ai à faire. Ces recommandations qui sont faites à Abraham, elles sont suivies d'une promesse. Si tu fais ces choses, le Seigneur rendra ta vie beaucoup plus fructueuse que tu ne pourrais le faire si tu étais tout seul. Bien sûr que si tu es tout seul, tu peux quand même te débrouiller sur la terre. Mais si tu obéis, alors le Seigneur va te donner une vie beaucoup plus remplie de fruits à sa gloire, c'est sûr. Il augmentera tes possibilités, il étendra ta vision, il te fortifiera, il te donnera l'aide dont tu as besoin, et il sera avec toi, donc, véritablement. Alors, êtes-vous comme mon voisin qui tourne en rond, disant « Mais où sont les clés ?» Combien de fois vous vous êtes demandé dans votre vie, mais où est-ce que j'ai mis les clés de la voiture? Mais où est-ce que j'ai mis les clés de mon bureau? Mais où est-ce que j'ai mis les clés de la maison? Hein, ça arrive à tout le monde. Aujourd'hui, ben, je vous ai dit où elles sont les clés. Venez encore sur Révélation Bible, je vous enseignerai beaucoup de choses sur ce sujet, des choses que j'ai reçues. que je suis aujourd'hui libre d'enseigner. Je n'étais pas libre d'enseigner toutes ces choses. Maintenant, je suis libre d'enseigner toutes ces choses. J'étais rendu libre par le Seigneur. Parce que je suis sorti du milieu de Babylone et de ses filles, les religions de tout poil, telles que c'est dit dans la Bible. Alors, je vais vous faire une dernière lecture dans Apocalypse 18, versets 2 à 8. 18, 2 à 8. Il cria d'une voix forte, disant, « elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la comme elle a payé et rendez-lui au double selon ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui le tourment et le deuil. » Parce qu'elle dit en son cœur, « Je suis assise en reine, et je ne suis point veuve, et je ne verrai point de deuil. » À cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront, la mort, le deuil, la famine. Elle sera consumée par le feu, car il est puissant le Seigneur Dieu qui l'a jugé. Mes frères et sœurs, ce que je viens de lire là, vous allez le voir bientôt à la télévision. Vous allez le voir très bientôt à la télévision. Merci Seigneur de bénir ces choses que j'ai dites ce matin et de permettre que les frères et sœurs deviennent un peu plus conséquents. Tous ceux qui viennent écouter Révélation Bible sur le net, qu'ils deviennent un peu plus conséquents et entrent dans ce rétablissement de toutes choses que tu es en train de faire. Je te le demande Père dans le nom de Jésus-Christ mon Dieu. Et pardonne ceux qui sont rebelles, pardonne ceux qui sont indécis, pardonne-les et éclaire-les. Je te le demande, Père, dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Amen.
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 Au revoir.